maladies bactériologiques. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
César sacrifia Cicéron, Lépidus son propre frère Paulus et Antoine son oncle maternel Lucius César. Tant la colère et la rage, étouffant en eux tout sentiment d'humanité, prouvèrent qu'il n'est point d'animal féroce plus cruel que l'homme quand il a le pouvoir d'assouvir sa
passion. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Si vous souhaitiez ce matin du prime sautier, du désinvolte, du fanfreluché, je vous engage à quitter notre antenne sans désemparer. Car l'émission que voici va se dérouler sous les couleurs les plus sinistres. Nous allons en effet y parler des massacres au temps de la République romaine. Ce sera pour constater qu'en ces temps reculés, la folie des hommes n'avait rien à envier à celle qu'a manifestée le XXe siècle et qui ne paraît guère en recul dans le nôtre. Nulle permanence, en vérité, n'est plus impressionnante. Partout, des flots de sang, partout les horreurs de la guerre, partout les tueries de civils emportées par l'affrontement des passions collectives et les ambitions des puissants. Et peut-être, après tout, allez-vous rester à l'écoute, je le souhaite en tout cas de grand cœur, puisque circuleront aussi, en creux, des interrogations sur les ressorts de la paix et sur les chances d'une civilisation capable de résister, parfois, à tant de pulsions meurtrières. Nathalie Barandon, qui est professeure en histoire ancienne à l'Université de Reims, a publié voici peu un livre impressionnant sur ce thème. Elle n'a pas craint d'affronter, sans s'en laisser étouffer, tout ce qui peut nous renseigner dans la littérature qui nous est parvenue comme dans l'iconographie sur les multiples expressions d'une violence de masse dans la Rome républicaine. Nous allons suivre son enquête sur un monde qui fut rarement pitoyable, mais où les contemporains n'ont pas manqué de manifester, selon d'autres paradigmes que les nôtres, des sentiments de blâme et de dégoût. Des sentiments s'entremêlant avec une résignation devant ce qui semblait en ces temps-là naturel, en somme, et inévitable. Par quoi nous sommes ramenés tout droit à notre présent.
Dois-je oublier Hector privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles ? Dois-je oublier son père à mes pieds renversé, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe, ses fils, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdue. Voilà comme Pyrrhus vint s'offrir à ma vue. Voilà par quels exploits il sut se couronner. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime, tous mes ressentiments lui seraient asservis.
Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous.
Nathalie Barandon, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet, merci pour votre invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Nous avons entendu un extrait d'Andromaque, un extrait très fameux d'Andromaque de Racine, acte 3, scène 8, qui a été enregistré ici en 1960, dans une réalisation de Georges Jacquard avec Éléonore Hirt dans le rôle d'Andromaque. Je rappelle que Andromaque, c'est la femme d'Hector et qu'elle évoque au moment où Pyrrhus souhaite l'épouser, les moments dramatiques où Pyrrhus, à la tête des Grecs, est venu opérer un certain nombre de massacres à Troie. Ce ne sont pas à Rome, mais c'est un précédent qui a beaucoup inspiré les auteurs, les écrivains, les historiens de l'époque romaine.
En effet, donc la prise de Troie est un thème récurrent dans les représentations iconographiques, dans la littérature, et ce jusqu'à l'époque romaine et bien au-delà. Et donc, c'était un moyen d'illustrer finalement, de parler, de montrer l'indicible de manière assez stéréotypée pour d'autres situations, de parler de cette violence extrême qu'est le massacre.
Troie parvient d'ailleurs à Rome par le truchement de Virgile plus tard avec l'Énéide.
Exactement, et donc il détaille, il revient sur cette prise de Troie et il y ajoute quelques éléments un peu plus romains, je dirais, notamment le bruit des trompettes qui peut sonner le déclenchement du massacre.
Il y a une acoustique de votre sujet. Les massacres impliquent toujours des bruits, des cris, des douleurs exprimées.
Oui, alors ça se lit en filigrane, mais cet univers sonore semble avoir été important dans la guerre en général, mais aussi dans ces moments de chaos, dans les villes, les cris, les trompettes, les projectiles. Donc voilà, on essaye de comprendre un peu cet univers sonore qui participe, à mon sens, du drame.
Alors, d'entrée de jeu, je voudrais que vous vous expliquiez sur le mot « massacre », parce que vous montrez bien dans votre livre, Nathalie Barandon, que c'est une sorte d'anachronisme. Mais cela arrive souvent en histoire, on trouve des mots nouveaux pour qualifier des faits anciens, mais ce n'était pas un mot romain.
Que ce soit dans le vocabulaire grec ou dans le vocabulaire latin, puisque nous avons des auteurs grecs et latins pour parler de l'histoire de Rome, il n'y a pas de mots spécifiques. Il y a une multitude de mots qui tournent autour de l'action de tuer, tuer en masse.
Oxidere, necare, interficere, trucidare, obtroncare.
Voilà, donc tous peuvent être employés et ces mots peuvent être employés pour signifier le massacre tel qu'on le conçoit, mais aussi pour un simple meurtre ou pour avoir abattu des arbres. Donc il n'y a pas un vocabulaire spécifique, il n'y a pas un mot spécifique, mais les situations décrites conviennent parfaitement à la définition moderne du massacre.
Donc nous acceptons, je le dis hautement, votre anachronisme. Le mot de massacre apparaît au XVIe siècle, ce n'est d'ailleurs pas sans importance.
Il prend son sens, alors il apparaît un peu avant, mais il prend son sens tel que nous le concevons, principalement au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Et c'est David Elkins hein, qui a travaillé sur ce sujet, qui a bien montré en quoi, finalement, il devient hein, ce meurtre, cette tuerie de masse de personnes innocentes, ou en tout cas, il y a une notion de supériorité du bourreau et d'infériorité de ceux qui sont exécutés.
Massacre, c'est aussi, ça fait penser aussi au jeu de massacre.
Oui, alors, jeu de massacre vise à la destruction, donc dans le cadre d'un jeu avec des balles. Mais on a aussi dans un sens qui correspond davantage à la chasse avec les têtes des cerfs exposés. Donc il y a de toute façon différents contextes d'emploi de ce mot.
Nous retrouverons tout à l'heure le thème de la tête coupée que l'on rencontre au cœur de vos analyses sur les massacres romains. Cette apparition de la mémoire des massacres romains à l'époque des guerres de religion n'est pas indifférente.
C'est un rebond et on est à la période donc de Renaissance où on redécouvre les textes anciens, on les traduit, il y a beaucoup de traductions par exemple d'Appien et de sa longue description de la proscription de 43 qui inspire notamment des peintres comme Antoine Caron.
Caron, dont vous reproduisez un extraordinaire tableau en couverture de votre livre qui, précisément, décrit le massacre du Triumvirat.
Voilà. Donc ça.
Nous parlons tout à l'heure, puisque Cicéron en a été la victime.
Tout à fait.
Eh bien, pour marquer ce rebond, vous allez me dire si les ressemblances vous frappent. Arrêtons-nous un instant à l'époque de ces guerres de religion. Je vais utiliser le truchement d'Alexandre Dumas dans la reine Margot, car sa capacité d'évocation me paraît frappante. C'est un extrait lu par Guillaume Gallienne sur France Inter le 21 février 2015. Le livre d'Alexandre Dumas remonte à 1845.
Dans les rues, l'œuvre terrible s'accomplissait. De longs cris se faisaient entendre, la mousqueterie pétillait, et de temps en temps, quelques malheureux, à moitié nus, pâles, ensanglantés, passaient, bondissant comme un daim poursuivi dans un cercle de lumière funèbre où semblait s'agiter un monde de démons. On aperçut deux hommes qui fuyaient, poursuivis par une longue file de massacreurs. Une arquebusade tua l'un, l'autre trouva sur son chemin une fenêtre ouverte, et sans mesurer la hauteur, sans s'inquiéter des ennemis qui l'attendaient en bas, il sautait intrépidement dans la cour. « Tuez ! Tuez !» crièrent les assassins en voyant leur victime prête à leur échapper. L'homme se releva en ramassant son épée qui, dans sa chute, lui avait échappé des mains, prit sa course tête baissée à travers les assistants, en culbuta trois ou quatre, en perça un de son épée et au milieu du feu des pistolades, au milieu des imprécations des soldats furieux de l'avoir manqué, il passa comme l'éclair devant Coconas qui l'attendait à la porte, le poignard à la main. « Touché !» cria le piémontais en lui traversant le bras de sa lame fine et aiguë. « Lâche !» répondit le fugitif en fouettant le visage de son ennemi avec la lame de son épée, faute d'espace pour lui donner un coup de pointe. « Oh, mille démons !» s'écria Coconas, c'est monsieur de la Mole. « Tue ! Tue ! » hurla-t-on de tous côtés. Coconas, la Hurière et 10 soldats s'élancèrent à la poursuite de la Mole qui, couvert de sang et arrivé à un degré d'exaltation qui est la dernière réserve de la vigueur humaine, bondissait par les rues sans autre guide que l'instinct. Derrière lui, les pas et les cris de ses ennemis l'éprenaient et semblaient lui donner des ailes. Parfois, une balle sifflait à son oreille et imprimait tout à coup à sa course, près de se ralentir, une nouvelle rapidité qui n'était plus une respiration. Ce n'était plus une haleine qui sortait de sa poitrine, mais un râle sourd, un rauque hurlement. La sueur et le sang dégouttaient de ses cheveux et coulaient confondus sur son visage. Bientôt, son pourpoint devint trop serré pour les battements de son cœur et il l'arracha. Bientôt, son épée devint trop lourde pour sa main et il la jeta loin de lui. Parfois, il lui semblait que les pas s'éloignaient, qu'il était prêt d'échapper à ses bourreaux. Mais au cri de ceux-ci, d'autres massacreurs qui se trouvaient sur son chemin et plus rapprochés quittaient leur besogne sanglante et accouraient. Tout à coup, il aperçut la rivière coulant silencieusement à sa gauche. Il lui sembla qu'il éprouverait, comme le cerf aux abois, un indicible plaisir à s'y précipiter, et la force suprême de la raison put seule le retenir. À sa droite était le Louvre, sombre, immobile, mais plein de bruits sourds et sinistres. Sur le pont-levis entraient et sortaient des casques, des cuirasses qui renvoyaient en froids éclairs les rayons de la lune. La Mole songea au roi de Navarre et à l'amiral de Coligny. C'étaient ses deux seuls protecteurs. Il réunit toutes ses forces, regarda le ciel en faisant tout bas le vœu d'abjurer s'il échappait au massacre, fit perdre par un détour une trentaine de pas à la meute qui le poursuivait, piqua droit vers le Louvre, s'élança sur le pont pêle-mêle avec les soldats, reçut un nouveau coup de poignard qui glissa le long des côtes, et malgré les cris de « Tue ! Tue !» qui retentissaient derrière lui et autour de lui, malgré l'attitude offensive que prenaient les sentinelles, il se précipita comme une flèche dans la cour, bondit jusqu'au vestibule, franchit l'escalier, monta 2 étages, reconnut une porte et s'y appuya en frappant des pieds et des mains.
C'était donc la Saint-Barthélemy, vue par Alexandre Dumas, à travers le personnage du protestant. La Mole, triple rebond, Nathalie Barandon. La Saint-Barthélemy, donc le XVIe siècle, le romantisme avec Alexandre Dumas, et puis notre période contemporaine qui n'est pas, hélas, avare en massacres de toutes sortes.
Oui, et on observe des comportements des victimes et des massacreurs souvent assez similaires, ce qui explique finalement la récurrence de la réflexion et l'inspiration qu'ont pu trouver les contemporains du massacre de la Saint-Barthélemy dans le récit d'Appien, avec ceux qui sont des victimes désignées, qui fuient, qui tentent parfois malgré tout de se battre, mais il y a un côté parfois aussi résigné, ils sont prêts à se suicider. Et puis il y a aussi tous ceux qui ne sont pas forcément des crimes, mais des comportements assez classiques dans la guerre totale. On se cache, on tente de se sauver, on attend, on espère, on désespère. Donc tous ces comportements sont assez similaires lors d'une prise d'une ville ou de faits militaires dans un cadre urbain, et se retrouvent à toutes les époques, à mon sens, et ne sont pas spécifiques à l'époque romaine.
Il y a des topoïs, des figures obligées qui se recopient. Vous parlez d'Appien, vous pensez à quel sujet spécifique? Rappelez-nous qui était Appien.
Alors Appien, c'est un historien de langue grecque de l'époque impériale qui a raconté donc l'histoire de Rome de la fin de la République et notamment des guerres civiles, et qui décrit dans tout un livre cette proscription de 43, et donc qui a été traduit, retraduit et utilisé au XVIe siècle pour finalement parler de manière indirecte de ce que vivaient les Français à cette époque-là.
Cela conduit à une réflexion, Nathalie Barandon, sur ce qui peut être stéréotypé, des récits qui se recopient quelque peu, et cela pose toute la question des sources que vous avez pu utiliser, des auteurs soit contemporains de l'époque de la République romaine, soit de l'époque impériale, qui n'ont pas forcément le même regard sur les événements dont nous parlons.
Alors, il y a ces stéréotypes parce que finalement, c'est des faits qui, s'il n'y a pas de survivants, il y a rarement de témoins. Que s'est-il passé dans, on le voit bien, hein, dans des espaces un peu cachés ou pas au grand jour. Et puis, c'est pas quelque chose que l'on raconte forcément facilement. Donc, les historiens ont été puisés dans ces images depuis, on l'a vu, la prise de Troie. Mais il y a toujours des détails, des éléments qui permettent d'individualiser chaque situation. Et si les comportements peuvent être stéréotypés, les faits sont bien contextualisés et donnent crédit au récit. D'autant que ces récits sont parfois confortés par l'archéologie ou d'autres types de sources.
Et l'iconographie, vous faites fond sur l'iconographie aussi.
Oui, l'iconographie.
La colonne de Marc Aurèle.
Voilà, elle témoigne de certaines pratiques, notamment en termes, là, pour Marc Aurèle, d'exécution, mais aussi de réduction en esclavage des populations qui sont représentées sur cette colonne. Donc l'iconographie et l'archéologie permettent d'avoir un autre regard sur ces sources littéraires qui, pour l'ensemble, même malgré les stéréotypes, rendent bien compte de ce qui se passait dans la guerre romaine.
Puisque dans votre esprit, les massacres, ce sont surtout les massacres des civils, plus que ceux qui sont liés à la guerre, encore que parfois, évidemment, la frontière soit difficile à tracer. Il y a une description qu'on retrouve un peu partout, on a l'impression que quelquefois les auteurs se recopient, c'est le thème du siège des villes et ensuite de leur chute. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce propos ?
Oui, c'est un peu un exercice de style pour un historien de l'Antiquité de raconter ces sièges avec finalement d'abord une volonté de rendre compte de la tactique adoptée, de la démarche de l'armée romaine, de l'assaut et indirectement des conséquences pour les populations, alors qu'on peut appeler civiles, mais qui sont des populations non combattantes, dans ce contexte de guerre totale qu'est la prise d'une ville.
On voit l'auteur de la rhétorique à Irénus, qui, si je ne me trompe, est resté anonyme, donner valeur d'exemple à une description de ce type. Je vous la propose. Aucun de vous, dit-il à ses lecteurs ou à ses auditeurs, n'ignore en effet quels malheurs suivent ordinairement la prise d'une ville. Ceux qui ont porté les armes contre les vainqueurs sont aussitôt égorgés avec la pire cruauté. Quant aux autres, ceux qui, en raison de leur âge ou de leur force, peuvent travailler sont emmenés en esclavage. Ceux qui ne le peuvent pas sont tués. Enfin, en un seul et même instant, les maisons sont incendiées par les ennemis. Voilà le feu de Pyrrhus. Et ceux que la naissance ou le libre choix ont unis par des liens de parenté ou d'amitié sont séparés. Les enfants sont arrachés aux bras de leurs parents, égorgés sur leur sein ou déshonorés à leurs pieds.
Oui, il s'agit de donner des images fortes, et les historiens ne les ont pas toujours reprises. Parfois, il suffisait de dire que cela s'est déroulé comme dans une ville prise et toutes ces images devaient certainement venir à l'esprit de ceux qui lisaient ou écoutaient ces récits. Donc on a rarement autant de détails qui sont donnés, mais ce sont des comportements finalement qui devaient être récurrents, même si il y a beaucoup de limites qui peuvent être mises, notamment par le chef de guerre, pour ne pas aller jusqu'au massacre de l'ensemble de la population prise au piège dans la ville.
Avec un inventaire que vous donnez des divers comportements, ils ne sont pas en effet poussés à l'extrême, ils le sont souvent. Dans les commentaires de César, la guerre des Gaules, il y a des histoires très impressionnantes de la punition des villes qui n'ont pas accepté de se soumettre.
Oui, l'intérêt de la guerre des Gaules de César, c'est qu'il parle sans filtre, sans scrupule. Il va raconter toutes ces tactiques, parce que cela relève bien de la tactique. Et donc, faire des non-combattants une cible pour affaiblir les combattants et remporter le combat plus rapidement est décrit sans aucun ménagement par César. Le massacre sanction n'est pas un crime, donc c'est une tactique comme une autre.
Faire peur.
Faire peur, affaiblir l'ennemi en touchant ce qu'il y a plus précieux pour eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs biens.
Vous évoquez aussi la décision de César, dans le cas d'une ville qui lui avait résisté, de couper le poignet de tous les jeunes gens.
Alors oui, ça relève du châtiment. C'est encore donc c'est après. Il y a vraiment deux temps finalement dans le massacre. Il y a celui qui est concomitant de la guerre et celui qui relève du châtiment. Et un des châtiments possibles est en effet de couper les mains plutôt que de couper les têtes. C'est-à-dire que les personnes resteront ensuite dans l'Empire romain et seront
des témoins.
Des témoins.
Au sens de martyr.
Des témoins et ce qui permettra d'éviter de nouveaux soulèvements puisque c'était des personnes qui s'étaient soulevées contre l'autorité romaine et ce sont aussi des futurs contribuables. Ils participeront à la vie de la communauté puisqu'ils n'ont pas été tués.
Alors quel est le sort des non-combattants pendant le siège? Vous évoquez des cas très différents. Dans certains cas, les assaillants renvoient ceux qui ont essayé de fuir la ville de façon à augmenter la faim et la soif à l'intérieur des murailles.
Oui, il s'agit notamment, et là c'est encore décrit par César, de ces mendubiens, donc cette population de la cité d'Alésia qui était victime du siège comme le reste de l'armée de Vercingétorix. Et le siège vise à affamer, à affaiblir l'ennemi. Et donc, il est préconisé dans les traités militaires, et c'est ce que fait César, de ne pas laisser sortir les non-combattants ou les plus faibles, les malades, afin d'affaiblir l'armée qui est prise au piège dans Alésia. Et lorsque l'armée gauloise décide de faire sortir ces populations pour alléger leur sort à eux, combattants, César refuse de les accueillir et donc ils sont pris au piège entre la ville et les camps césariens. Et César ne précise pas leur sort, finalement peu lui importe. Il fait porter la responsabilité de ce sort qui est supposé, la mort, à Vercingétorix. C'est lui qui les a fait sortir et donc c'est lui qui est responsable.
Je disais qu'il était parfois difficile à vous lire de faire le départ entre le massacre des civils qui est au centre de votre réflexion néanmoins, et les cruautés de la guerre, les massacres des soldats vaincus. À ce propos, je vais vous offrir un extrait de l'histoire de Polybe. Polybe, cet écrivain de langue grecque du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui raconte les guerres puniques. Il évoque ici le massacre de l'armée romaine, conduite par Flaminius, massacre par les Carthaginois d'Hannibal. On est en 217 sur les rives du lac de Trasimène, au nord de l'Italie. C'est un extrait de Une vie et une œuvre donné sur France Culture le 22 juillet 2007. C'était une émission consacrée à Polybe.
Il y avait ce jour-là un brouillard particulièrement dense. Et dès que la plus grande partie de la colonne romaine eut pénétré dans la vallée et que les unités de tête furent arrivées au contact avec les Carthaginois, Hannibal donna le signal convenu et fit avertir les troupes placées en embuscade. Il se mit alors à assaillir les Romains de tous les côtés. L'apparition soudaine de l'ennemi surprit Flaminius. Et comme la visibilité était encore très faible, et que l'adversaire, partant de toutes sortes d'endroits, venait se jeter sur les Romains en dévalant les pentes, les centurions et les tribuns se trouvaient hors d'état de se porter sur les points menacés, et n'arrivaient même pas à voir exactement ce qui se passait. Attaqués à la fois de front, sur leurs arrières et sur leurs flancs, les Romains furent pour la plupart massacrés alors qu'ils étaient encore formés en colonne de marche. Ils n'avaient pas la possibilité de se défendre et se trouvaient pour ainsi dire livrés au coup de l'ennemi par la stupidité de leur chef. Ils en étaient encore à délibérer sur ce qu'ils devaient faire que déjà la mort les frappait par surprise. Flaminius lui-même, qui était pris dans la tourmente, au comble du désespoir, fut tué par des Gaulois qui se ruèrent sur lui. Près de 15 000 Romains furent ainsi massacrés dans la vallée, sans avoir pu ni mettre bas les armes, ni se battre, mais non sans avoir montré leurs attachements aux maximes qui leur avaient été inculquées, en refusant de fuir et d'abandonner leur place dans le rang. Quant à ceux qui se trouvèrent bloqués dans l'étroit passage séparant le lac de la montagne, ils furent eux aussi lamentablement massacrés, dans des conditions plus affreuses encore. Repoussés tous ensemble vers le lac, certains d'entre eux, perdant la tête, se noyèrent en essayant de se jeter à la nage avec leur armure, et les autres, les plus nombreux, avancèrent dans l'eau, jusqu'à ce que leur tête seule émergea encore. Lorsque la cavalerie ennemie s'engagea à leur suite dans le lac et qu'ils virent la mort arriver sur eux, ils levèrent les bras en l'air, suppliant avec toutes sortes de cris pour qu'on les épargnât. Finalement, ils périrent sous les coups de l'adversaire ou parfois purent encore rassembler assez d'énergie pour se donner eux-mêmes la mort.
Cela évoque un peu, me semble-t-il, Nathalie Barandon, la fameuse charge mortelle du général Custer, la bataille de la Little Big Horn en 1876 contre Sitting Bull, l'Indien, qui a été abondamment mis en scène au cinéma.
Oui, c'est un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire pour les Romains, de la guerre romaine, qui montre bien, il y a des éléments intéressants, la notion de piège, et donc cette idée qu'ils ont été massacrés, qui est répétée. Avec, pour moi, donc, j'ai voulu une approche un peu plus restrictive du sujet, estimant qu'on pourrait parler aussi là de carnage, et que ces soldats, il y a quand même même s'il y a cette notion de piège et le fait qu'ils soient affaiblis, il y a quand même un consentement et un engagement dans la guerre, dans le combat, qui, à mon sens, distingue le sort de ces soldats de celui des non-combattants, des femmes, des enfants, ou des vieillards qui, eux, ne s'étaient pas engagés ou n'ont pas été formés. Ils ne sont pas dans l'armée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hors de la guerre, mais ils ne sont pas dans l'armée.
À l'égard de ceux-ci, vieillards, enfants et femmes, la violence est constante dans cette République romaine dont vous montrez tant les aspects sombres.
Alors, je pense que, malheureusement, cette violence exercée à l'encontre de ces femmes, enfants et vieillards est constante dans toutes les guerres. Je pense que ce n'est pas spécifique à la guerre romaine, mais elle, en effet, a participé à cette réflexion que j'ai eue sur le massacre, sur donc ces populations non combattantes et qui devaient être défendues et qui n'ont pas toujours pu être défendues.
Tacite évoque un massacre, un pillage ultérieur, puisque c'est celui de Crémone en 69 après Jésus-Christ, mais qui est marqué par le même état d'esprit, qui est sous les mêmes couleurs. Il dit ceci: ni le rang ni l'âge n'étaient une protection. On mêlait le viol au meurtre, le meurtre au viol. Des vieillards d'un grand âge, des femmes dont la vie était presque achevée, méprisées comme butin, étaient traînées pour servir de jouet. Quand une vierge nubile ou un homme d'une belle tournure se rencontraient, ils étaient mis en pièces par les mains brutales qui cherchaient à les entraîner et finissaient par provoquer entre les ravisseurs eux-mêmes un combat à mort.
Oui, alors la scène est d'autant plus violente qu'on est en contexte de guerre civile. Et donc, a priori, on ne peut pas faire des citoyens romains ou des alliés de Rome des esclaves. Et ce qui explique que la violence se porte sur les corps et le viol. Et cela rend bien compte aussi à la fois des comportements attendus pendant le pillage. Il s'agit de faire du butin et donc il n'y a aucun sens à maltraiter les populations qui pourront être vendues. Mais ce pillage n'est parfois pas contrôlé par le chef de guerre ou rendu impossible ou difficile par certaines situations, dont la guerre civile ou l'éloignement, parfois dans des terrains de guerre assez éloignés de la présence de marchands, par exemple.
Les pillages, les viols, on est là au cœur de pratiques fréquentes. Est-ce que les chefs s'efforcent de les contrôler? Je pense à Bonaparte qui, arrivant à la fin de la période du Directoire en Italie, donne des instructions spécifiques à ses soldats, leur enjoignant de ne pas piller.
Alors le pillage à Rome est extrêmement contrôlé. Polybe décrit bien les règles, il y a des règles à tenir, et ces règles en général peuvent être respectées puisqu'il y a un lien très fort, il y a un serment qui est prêté entre le soldat et son chef avant l'engagement dans la guerre. Toutefois, on observe que ces règles ne sont pas toujours respectées et qu'il y a ces fameux débordements, comme vous l'avez lu à propos de Crémone. Et donc, tout dépend de l'autorité du chef. Et on a certains cas où il n'y a pas d'autorité et donc le chef peut alors décider de protéger lui-même les populations. Et on a aussi le cas, par exemple, de Pompée, qui ne veut pas que la cité d'Himer en Sicile soit châtiée. Et donc, pour contenir ses hommes, il va jusqu'à sceller les épées de ses soldats avant le pillage. Donc oui, tout dépend de la motivation, de la présence de ces chefs de guerre et du rapport de force, du rapport d'autorité qu'il peut avoir avec ses hommes.
Ce qui peut paraître très individuel, mais qui néanmoins fait peut-être partie de votre sujet, les questions des massacres, c'est le suicide provoqué. Je pense à cet épisode qui a succédé à la reddition de Capoue en 211. Flaccus, le vainqueur, qui faisait exécuter les notables, on est en Campanie, qui ont été mis au fer après cette reddition, refuse d'exécuter un certain Thoréa, qui lui répond avant de se donner la mort, puisque après la prise de ma patrie et la perte de mes proches et de mes amis, alors que j'ai tué de ma propre main ma femme et mes enfants, pour leur épargner toute espèce de déshonneur, je n'ai même pas la ressource d'avoir la même mort que mes compatriotes tombés ici. C'est à ma bravoure que je dois faire appel pour me délivrer de cette vie que désormais je déteste.
Alors, c'est un discours recomposé par Tite-Live, qui permet à Tite-Live donc de signifier le désespoir et la fierté d'un certain nombre de vaincus des armées romaines, puisqu'on retrouve le suicide comme choix, solution pour éviter d'être remis dans les mains de Rome dans beaucoup de faits militaires.
On retrouve après tout ce qui s'est passé dans le bunker de Hitler. Je ne veux pas faire de comparaison qui soit désobligeante pour Thoréa, mais quand Madame Goebbels a donné du cyanure à tous ses enfants avant de se donner elle-même la mort.
La comparaison avec Madame Goebbels, je le ferais plus avec la femme d'Asdrubal qui Asdrubal, lui, s'est rendu, mais elle a refusé de se rendre. Et elle s'adresse à lui, justement, puisque c'est aux hommes de tuer les femmes et les enfants. Et lui ne l'a pas fait, puisqu'il s'est rendu. Et elle s'adresse à lui, on est dans la prise de Carthage en 146, avec beaucoup d'éclat, en lui disant, voilà, je vais accomplir ce que tu aurais dû accomplir. Et elle tue ses enfants devant lui, avant de se suicider dans un bûcher collectif. Donc on a plusieurs scènes comme ça à différentes époques de suicides orchestrés par les hommes qui tuent leurs femmes et leurs enfants, mais aussi des suicides collectifs qui sont là organisés par la communauté qui, plutôt que de se rendre, préfère brûler tous les biens pour ne pas les donner aux vainqueurs, mais aussi organiser donc la mort de toute la communauté.
Et des auto-massacres.
C'est un choix, en effet, c'est présenté comme un choix pour éviter le sort sur lequel ils n'ont aucun doute, pour éviter le massacre. Et il y a des parallèles, alors ce sont bien sûr des images, mais il y a des parallèles entre une communauté qui va choisir le suicide et l'autre qui va lutter jusqu'à la fin, et la fin passe par le massacre. Dans les deux cas, les deux communautés sont exterminées, réduites à néant, donc soit à l'initiative des vaincus, soit malgré la résistance.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Les historiens contemporains ont beaucoup travaillé sur la brutalisation de la guerre, à propos de 14-18 en particulier. Si on applique ces réflexions à l'époque des massacres de la République romaine, que peut-on y transposer? Je pense par exemple à la question de l'alcool.
Alors, les témoignages, les indices sont très faibles, mais il est question, en effet, plutôt de l'usage de l'alcool pour soigner. On retrouve ça notamment avec César, qui prend pendant la guerre civile une cité qui s'appelle Gonfi. Et ces soldats étaient très malades et apparemment, ils ont été soignés par du vin. Mais ils sont ensuite décrits, notamment par Appien, comme totalement ivres à l'issue de la prise de la ville qui a été particulièrement sanglante. Donc il y a quelques signes comme ça infimes de cet usage du vin, beaucoup moins que pour l'époque contemporaine. Mais on peut envisager cette consommation au moins après les événements.
Il demeure qu'on a souvent le sentiment qu'il se développe comme une fureur d'oxyre.
Alors il y a cette violence qui est décrite dans certaines scènes, On peut penser à la prise d'Avaricum par César pendant la guerre des Gaules, où on a l'impression que César ne contrôle plus ses soldats. Et donc c'est un processus que j'ai essayé d'analyser dans le détail, qui relève notamment cette analyse de la micro-sociologie de Randall Collins, cette idée de tunnel de violence dans lequel s'engagent les soldats et qui s'explique par des tensions qui précèdent notamment le siège extrêmement forte, mais aussi par, là encore, l'absence de contrôle de la part de César, qui donne presque l'autorisation, la possibilité de lâcher prise, et qui décrit ensuite la prise de cette ville. Il finit par une litote en disant que il ne restait plus personne, hein, que tout le monde avait été tué à l'issue de cet assaut. Là encore, ce qui n'est pas traditionnel, hein, puisque normalement, une fois que la ville est prise, le massacre devait s'arrêter.
Vous évoquez aussi le massacre des Éburons par César. C'est une vraie éradication, là.
Alors justement, je n'emploierai pas le terme éradiquer.
Ah, résister.
Extermination. C'est une réelle extermination.
Nous viendrons à éradication, voilà, en parlant du génocide tout à l'heure.
Et en effet, donc, d'un point de vue tactique, hein, ces Éburons, donc on est sur le territoire actuel de la Belgique, César a lancé ses armées dans les forêts des Ardennes pour attraper d'abord, capturer le chef, le roi Ambiorix.
Mais qui échappe.
Et donc l'idée, c'est de l'affaiblir, donc d'affaiblir sa communauté en tuant, ou en affamant, ou en réduisant en esclavage l'essentiel de la population.
Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, venons-en à la question que vous évoquiez tout à l'heure des proscriptions. Parce que les massacres ne sont pas uniquement de masse, ils peuvent aussi s'appliquer à des groupes sociaux. On peut revenir jusqu'à l'époque des Gracques, par exemple, avec l'opposition entre les optimates
et populares.
Et populares, oui.
C'est les premiers grands conflits politiques donc, qui ont eu lieu en 133 et en 121, donc, qu'on appelle les Gracques, puisque les principaux leaders sont donc deux frères, Tiberius, puis ensuite Caius Gracchus, mais qui ont entraîné derrière eux donc, des hommes politiques ou des partisans qui étaient favorables à des réformes de type social, politique, économique, en faveur des plus humbles, des citoyens romains. Alors, la question est souvent, m'est souvent posée spontanément. On pourrait penser que la proscription ne fait pas partie des massacres du fait que ce sont des exécutions, mais des exécutions de masse, mais ciblées.
On désigne des personnalités, voilà, et on donne droit, on appelle à les tuer.
Exactement. Il y a une liste de proscrits et il faut les tuer et on doit rapporter la tête pour toucher récompense à l'issue donc de l'exécution. Et cette exécution ciblée est ordonnée par l'autorité en place. On peut la considérer comme discutable, mais c'est quand même l'autorité reconnue, que ce soit Sylla ou les triumvirs.
Donc 82 d'un côté et 43 de l'autre. 43, très fameuse, la proscription organisée par les triumvirs.
Voilà.
Antoine, Octave et Lépide, dont Cicéron est la victime la plus célèbre. Je vais vous faire entendre la manière dont, dans ses vies parallèles, Plutarque raconte la fin de Cicéron, la prescription dont il est victime en 43 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une lecture, figurez-vous, par Marcel Jouandeau sur France Culture, le 5 octobre 1966.
Ils étaient à peine sortis que les meurtriers arrivèrent. C'était un centurion nommé Hérénus et Popilius, tribun des soldats, celui que Cicéron avait autrefois défendu dans une accusation de parricide. Ils étaient suivis de quelques satellites, ayant trouvé les portes fermées, ils les enfoncèrent. Cicéron, ne paraissant pas, et toutes les personnes de la maison, assurant qu'elles ne l'avaient point vu. Un jeune homme nommé Philologus, que Cicéron avait lui-même instruit dans les lettres et dans les sciences, et qui était affranchi de son frère Quintus, dit au tribun qu'on portait sa litière vers la mer par des allées couvertes. Popilius, avec quelques soldats, prend un détour et va l'attendre à l'issue des allées. Cicéron, ayant entendu la troupe que menait Hérénius, fit poser à terre sa litière, et portant la main gauche à son menton, geste qui lui était familier, il regarda les meurtriers d'un œil fixe. Ses cheveux, hérissés et poudreux, son visage pâle et défait par une suite de ses chagrins, firent peine à la plupart des soldats même qui se couvrirent le visage pendant qu'Hérénius l'écorchait. Cicéron avait mis la tête hors de la litière et présenté la gorge au meurtrier. Il était âgé de 64 ans. Hérénius, d'après l'ordre qu'avait donné Antoine, lui coupa la tête et les mains avec lesquelles il avait écrit les Philippiques. C'était le nom que Cicéron avait donné à ses oraisons contre Antoine, et elle le conserve toujours. Lorsque cette tête et ses mains furent portées à Rome, Antoine, qui tenait les comices pour l'élection des magistrats, dit tout haut en les voyant « Voilà les proscriptions finies !» Il les fit attacher à l'endroit de la tribune qu'on appelle les rostres, spectacle horrible pour les Romains.
La tête, comme symbole, c'est aussi celle de la princesse de Lamballe au moment de la terreur. Il y a des textes d'ailleurs qui sont pires encore, me disiez-vous, sur la tête de Cicéron et son funeste destin.
Alors oui, c'est vraiment un des épisodes majeurs de cette proscription, la mort de Cicéron, et donc elle est décrite dans la plupart des sources qui évoquent cette période, avec plus ou moins de détails. Par exemple, le meurtrier aurait dû s'y prendre à 3 fois pour trancher la tête de Cicéron. Et d'autres détails, notamment qui concernent le comportement d'Antoine et de sa femme, Fulvie, qui se serait joué de cette tête, et Fulvie l'aurait piqué avec des épingles à cheveux. Bien sûr, ce sont des sources très à charge, puisque l'essentiel des horreurs de la proscription ont été attribuées à Antoine à partir du moment où Octave, devenu Auguste, était vainqueur. Donc on a fait reporter sur Antoine les pires comportements. Mais il y a cette idée à Rome que ce qui est cruel, c'est le fait de se réjouir de la violence, et ce fait de se réjouir de la mort, d'avoir des émotions, des passions, d'aller au-delà de ce qui est nécessaire.
Non pas la violence elle-même, donc.
Non pas la violence elle-même. Couper à la tête est une preuve de l'exécution d'un ordre, mais se réjouir et admirer ces têtes, s'en moquer, il est question aussi de moquerie, les humilier, là, cela relève de la cruauté.
Il faut donc distinguer, c'est ce que vous faites, proscription d'un côté et action de masse de l'autre. Il y a la grande question de la destruction des villes quand elles ont été prises. Est-ce qu'elles sont vraiment mises complètement à bas? Je pense par exemple à Carthage, avec le Delenda Est Carthago. Il faut détruire Carthage, qui a rebondi pendant la Seconde Guerre mondiale en France, lorsque Harold Pakis, qui était un éditorial fameux à l'époque de Radio Paris, de la collaboration, terminait toutes ses chroniques par « L'Angleterre comme Carthage doit être détruite ». Rebond.
Alors justement, la destruction des villes, qui est aussi là ce que l'on observe dans l'essentiel, enfin une grande partie des guerres encore de nos jours, elle est effective, c'est-à-dire qu'à Carthage, en effet, Carthage a bien été détruite. Mais elle n'est pas systématique, cette destruction des villes, alors que la mention d'une ville détruite est quasiment systématique. On observe dans d'autres cas, par l'archéologie, que tous les bâtiments ne sont pas détruits. Souvent, ce sont ceux qui sont sur le passage des armées, ou alors des bâtiments à dimension symbolique forte, comme les murailles. Car ce qui est détruit, surtout lorsqu'on écrit que la ville a été détruite, ce qui est détruit, c'est la communauté, c'est la civitas, c'est la cité. Et donc c'est un symbole fort pour marquer la victoire absolue qui est nécessaire pour ensuite triompher à Rome. Donc on a dans la réalité, bien sûr, l'espace urbain n'est pas forcément détruit ni abandonné, parfois il est assez rapidement réoccupé par les populations, mais symboliquement, la ville est détruite, c'est-à-dire que la communauté n'existe plus en tant que communauté autonome et est intégrée dans l'Empire romain.
On voit cette histoire jonchée en vérité de pulsions collectives. Je pense à un autre cas qui est aux dépens des Romains cette fois, c'est celui des 80 000 morts qui ont été provoquées, victimes romaines des populations grecques en Asie mineure à l'initiative du roi Mithridate.
Alors ça, c'est intéressant parce que C'est un ordre donné par Mithridate, hein, à un jour J. Il est demandé que toutes les populations romaines ou italiques soient massacrées par les Grecs dans l'Asie mineure, donc dans la province romaine.
On est à l'automne de 88 avant Jésus-Christ.
Tout à fait, où Mithridate entreprend la conquête de l'Orient, alors que l'Orient, cette partie-là, est sous domination romaine. Et donc, pour aider sa conquête, il demande, alors les chiffres sont certainement gonflés, mais un nombre considérable, puisque les auteurs estiment à 80 000, Romains, Italiens, qui sont massacrés un même jour.
Est-ce qu'on peut employer le mot de pogrom sans être artificiel ?
En tout cas, ce qui est intéressant, je serais prudente, mais ce qui est intéressant, c'est que Appien, lorsqu'il décrit ce massacre, le décrit de manière très similaire à sa description de la proscription. Donc il fait vraiment un parallèle, et lorsque Voltaire va faire la liste de ce qu'il appelle les proscriptions, dans lesquelles il met les massacres, puisqu'il met la Saint-Barthélemy, il va aussi tenir compte, donc bien sûr, de la proscription de 43 et de ce massacre ordonné par Mithridate. Donc il y a des parallèles qui ont été faits à l'époque contemporaine, mais aussi à l'époque moderne.
Je voudrais que nous en venions, pour finir, Nathalie Barandon, à la question de la punition, des jugements, jugements moraux, jugements au sens propre, judiciaires. Comment ces massacres, une fois accomplis, ont-ils pu être sanctionnés d'une façon ou d'une autre ? L'ont-ils été d'ailleurs ?
Alors, le massacre dans la guerre, le massacre lié au combat, n'est pas un crime. Il n'y a pas de droit dans la guerre à l'époque, et l'impérator, le chef de guerre, peut choisir la tactique qu'il souhaite, et c'est pour ça que César décrit un moment, à propos des usipectes et des tintères, il décrit le fait qu'il a envoyé ses soldats attaquer les populations non combattantes afin d'affaiblir l'armée ennemie. Voilà, il n'y a pas de crime en cela. Ce qui a été discuté, c'est le massacre sanction, c'est-à-dire le châtiment. Il est estimé, surtout au 1er siècle, mais déjà au 2e siècle, c'est discuté, à partir du moment où une communauté fait sa reddition, où elle entre dans la bonne foi du vainqueur, il n'est pas de bon ton de les exterminer. Et pourtant, cela a eu lieu. Donc il y a eu des débats au Sénat, mais ils n'ont jamais abouti. Il n'y a jamais eu de jugement. À la rigueur, ce qui a abouti à des peines, des amendes, c'est le fait d'avoir maltraité des populations déjà intégrées dans l'Empire, c'est-à-dire des provinciaux. Mais l'ennemi, au moment du combat, de la guerre, jamais n'a obtenu gain de cause. Et d'ailleurs, les ambassadeurs, lorsqu'ils viennent plaider leur cause au Sénat, ne parlent pas des morts. Ce qu'ils espèrent obtenir, c'est l'amélioration de leur sort actuel, donc bien après la guerre. Donc ils ne cherchent pas à faire condamner les chefs de guerre pour leurs actes passés, mais ils cherchent à obtenir une situation plus favorable à leur égard dans le temps présent. On n'a pas de regard rétrospectif.
Vous évoquez le cas intéressant de la ville de Locre.
Alors ça, c'est un passage aussi très important pour les Romains, hein, puisqu'il s'agit là, on est dans contexte de guerre, la Deuxième Guerre Punique. La ville a été prise, mais ce qui est reproché à la garnison, et notamment à Pléminus, c'est le pillage qui semble ne jamais s'arrêter. Et donc là, les ambassadeurs vont se plaindre à Rome en disant « ça y est, ils ont fait leur soumission, pourquoi finalement la garnison continue à violer, à piller, à maltraiter ?» Et donc, il y a un débat. Mais le débat tourne surtout autour du sanctuaire. Et donc là, on touche à l'atteinte aux dieux. Hein. Donc là, la situation est grave, puisque le sanctuaire a été pillé. Et donc, le massacre n'est jamais l'objet principal de la discussion. Il entre finalement dans un ensemble de débats qui portent surtout sur les comportements, le comportement des soldats et surtout le comportement du chef de guerre. Il y a une dimension morale qui est bien plus forte que... On n'analyse pas les faits tels qu'ils ont pu se produire.
C'est ce que dit d'ailleurs Cicéron quelque part, il ne faut pas mesurer les fautes par les résultats, mais par les vices de l'homme qui les a commis, ce qui crée une vraie différence avec notre époque.
Tout à fait, même si à notre époque... On s'intéresse notamment dans les affaires politiques de plus en plus à la moralité qu'aux actes. Mais c'est très probant pour la société romaine, dans la vie politique comme dans la guerre, hein, puisque Cicéron parle surtout de la vie politique. C'est l'homme qui compte sa moralité, non pas son programme politique ou ses actes. Parce que ce qui les intéresse, c'est bien sûr, s'il y a des vices, ils pourront engendrer de nouveaux actes dans d'autres situations, dans le futur. Donc il vaut mieux s'intéresser à la personnalité de l'homme, à sa moralité en général, plutôt qu'à ce qu'il a fait.
Il y a toute une réflexion que vous mettez en lumière, Nathalie Barandon, sur la cruauté.
Alors la cruauté me semble un point intéressant. Alors il y a beaucoup de vices. Les chefs de guerre ont beaucoup de vices, l'orgueil, la luxure. Mais la cruauté a une dimension particulière. Crudelis, crudelitas, l'origine du mot c'est cruor, hein, c'est le sang, donc c'est celui qui tue aussi. Une dimension particulière parce qu'elle a été très vite mise en relation avec la tyrannie. Et donc avec des comportements, il faut rappeler ce qui m'intéressait dans la période républicaine, c'est que les chefs de guerre sont les chefs politiques. Ce sont les mêmes hommes qui, dans leur carrière, sont amenés à gouverner en province, à faire la guerre et à gouverner les Romains. Cette spécificité fait qu'on est attentif au comportement des mêmes hommes à la guerre et dans la vie politique, avec le parangon de la tyrannie qui est Sylla, qui a massacré les Athéniens et qui ensuite a ordonné la proscription et donc massacré les Romains. Et donc sa moralité, son comportement explique peut-être l'un et l'autre.
Vous interrogez, pour finir, dans votre ouvrage, Nathalie Barandon, sur le génocide. Est-ce qu'il est légitime de parler de génocide pour l'Antiquité? Et pour illustrer cela, le témoignage qui nous mettra dans le climat des choses, le témoignage d'une survivante tutsi du massacre de Nyarubuye en 1994 au Rwanda. Ce sont des propos recueillis par Daniel Mermet sur France Inter le 8 avril 2004.
Le premier jour, en fait, ils ne m'ont pas découpée parce que j'étais tombée à plat ventre parmi beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens blessés ou morts dont le sang coulait sur moi. Moi, j'ai essayé de retenir la respiration et le tueur croyait que j'étais morte. Il continuait à découper les gens et à jeter les cadavres sur moi. Des gens criaient, surtout les enfants, et disaient « pitié de nous, ayez pitié de nous ». Ils ont tué les gens jusqu'à peu près 18h30 parce qu'il y avait un clair de lune. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont partis. Mais moi, je n'étais pas morte. J'étais coincée sous une pile de cadavres et je n'arrivais pas à me dégager. Quand j'ai passé la nuit sous les cadavres, comme ça, toute seule, je ne pensais à rien. Je voyais la mort autour de moi. Je savais que j'allais mourir. Ce que je souhaitais, en fait, c'était de trouver quelqu'un qui me tue vite.
Je ne sais pas, Nathalie Barandon, si un témoignage de ce genre était concevable sous l'Antiquité, probablement. Mais je comprends que vous êtes réticente à l'idée d'appliquer le mot de génocide à cette période romaine, à cette période de l'Antiquité. Alors que Raphaël Lemkin, dont on sait qu'il a créé le mot génocide en 1944, afin de juger les responsables nazis, avait cherché dans le passé d'autres cas d'étude, et parce qu'il souhaitait transformer un précepte moral en règle de droit international.
Oui, et donc à la suite de Raphaël Lemkin, de plusieurs spécialistes des Genocide Studies ont en effet cherché dans l'Antiquité...
Genocide Studies, vous voulez dire les études sur le génocide.
Oui, excusez-moi. Ont en effet cherché dans l'Antiquité les prémices peut-être du génocide et se sont attachés notamment à reprendre quelques cas, dont un qui avait été, puisque Lemkin voulait faire une histoire, hein, et donc il avait des fiches préparatoires, et dans ces fiches préparatoires, il y avait donc le cas de Carthage. Donc ce cas de Carthage a été repris par des tenants, je dirais, cette dimension un peu inclusive, hein, donc prendre tous les cas possibles de la réflexion sur le génocide. Mais à mon sens, la grande différence, même si on pourra revenir, si vous souhaitez, sur le cas de Carthage, il y a quand même des notions à rappeler. Par exemple, ce que dit Annette Becker, hein, le génocide est une fin en soi. Alors que si les Romains ont pratiqué l'extermination de peuples, c'est indéniable, soit par le massacre et la réduction en esclavage de toute une population, cela n'a jamais été une fin en soi.
C'est un moyen.
C'est un moyen. C'est un moyen, c'est une tactique, et lorsque César extermine les Éburons, une fois qu'il est assuré, il n'a pas capturé Ambiorix, mais il est assuré qu'il n'y aura plus de soulèvement dans cette région et qu'il a atteint la limite qu'il voulait fixer à sa frontière, c'est-à-dire le Rhin, il peut retourner tranquillement à Rome et jamais, ni lui ni ses successeurs n'ont cherché à aller exterminer le reste des Éburons, puisque tous n'ont pas été massacrés. Il n'y a pas une volonté d'éradiquer les Éburons pour ce qu'ils sont. C'était un objectif militaire, et une fois qu'il était atteint, le massacre ou l'extermination s'arrêtait là. Donc là, c'est une différence qui me semble fondamentale. L'autre différence fondamentale, et ça c'est Primo Levi qui le rappelle bien, c'est que là, pour le cas donc perpétré par les Allemands, il y a eu cette volonté de détruire les preuves. Il y a cette idée que le crime est presque intériorisé, en tout cas ceux qui pratiquent le génocide en ont conscience, d'être dans un au-delà de la violence de guerre. Alors que César raconte froidement sa tactique pour exterminer les Éburons. Donc il y a comme ça plusieurs éléments qui, à mon sens, donnent une autre dimension aux cas contemporains reconnus comme des génocides et qui me semble donc très délicat de parler de génocide pour l'Antiquité romaine.
César tient à ce que ce qu'il a fait soit su et soit cru, ce qui a valeur d'exemplaire.
Oui, hein, c'est Jacques Semelin qui montre bien hein, que le massacre-sanction de l'Antiquité doit être su puisqu'il vise à la soumission et non pas à l'éradication. Et c'est un moyen de soumettre psychologiquement également alors le peuple visé, mais aussi les voisins, hein, les communautés voisines. Donc il y a un effet de terreur. Donc c'est un massacre qui vise à la soumission et non pas à l'éradication comme dans le cas des génocides.
Nathalie Barandon, merci. Votre livre s'appelle « Les massacres de la République romaine », paru chez Fayard en 2018. Vous nous annoncez un livre aussi en collaboration avec Isabelle Pimonguet-Pédaros, un livre collectif qui s'appellera « La transgression en temps de guerre de l'Antiquité à nos jours » à paraître aux presses universitaires de Rennes. Et puis vous avez cité chemin faisant un auteur important qui est Jacques Semelin, dont l'ouvrage majeur, un des ouvrages majeurs s'appelle « Purifier et détruire ». Usage politique des massacres et des génocides, paru au Seuil en 2005. Il vous a été utile ?
Très, oui, sa réflexion, son cheminement, le processus de déconstruction, comprendre le passage à l'acte. Donc il y a toute une méthodologie d'analyse très rigoureuse et bien sûr des réflexions aussi très lumineuses.
Merci. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, je vous emmènerai dans une toute autre direction, enfin, vous verrez, sur le sujet suivant, l'homme et le rat, un étrange commerce. Et je recevrai pour en parler Éric Baratet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitil de Gavrilov et par Claire Poinsignon, une émission réalisée par Yaël Mandelbaum, comme chaque samedi, avec à la prise de son Nicolas Slimani, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Marie Chauveau pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et puis je veux, chemin faisant, rendre hommage à la documentation de Radio France qui travaille toujours pour nous de façon parfaite. Et dans quelques instants, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.